autrement, auditrices et auditeurs de Fréquencier 97.9. Autrement, c'est un voyage qu'on a commencé avec Daniel Labonne, qui est atterri, tombé du ciel, comme dit la chanson, dans cette ville de Ciel-Guillaume, et qui, enchanté, totalement enchanté, enchantant, heureux, poète, et j'en passe, mais bien sûr, on a beaucoup voyagé avant, et pour vous, auditrices et auditeurs, Daniel Labonne dit qu'il est un marron, voilà. Marron. Alors, vous, peut-être, dans vos campagnes, vous savez ce qu'est le marron, la châtaigne, la noisette, et j'en passe. Mais lorsqu'on est un être humain et qu'on se dit être un marron, Daniel Labonne, c'est quoi être un marron ?
J'ai publié un recueil de poèmes qui a été édité par L'Harmattan, qui est intitulé « Marronnage ». C'est tout simplement des poèmes que j'ai écrits pendant mes voyages. J'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai visité les 5 continents de la planète et je ne me considérais pas comme écrivain. Par contre, j'écris tout le temps, mais secrètement. Et généralement, ce sont des poèmes que j'emmagasine comme ça. Et puis, à un certain moment, à un certain âge, je réalise qu'il y avait dans le tiroir pas mal de poèmes. J'ai compilé tout ça et j'ai présenté ça à L'Harmattan à Paris et ils m'ont dit je publie tout de suite. Donc marronnage, le premier sens, c'est un vagabondage, le besoin de traîner, le besoin de découvrir, le besoin d'écouter et le besoin de grandir. C'est une espèce de besoin d'exister en respirant et en expérimentant la liberté, mais une liberté totale, presque utopique, qu'il faut continuer à avancer. Donc ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une névrose, mais c'est plutôt le besoin d'aller vers l'autre et de se découvrir pendant les voyages. Je pense que c'est saint Augustin qui dit « la solution est dans le mouvement ». Donc, dans la mesure où on avance, on existe. Mmh. Donc, je bouge, donc je suis. Voilà, c'est ça le marronnage.
Donc, je bouge, donc je suis. Vous avez pris note, auditrice et auditeur, quand même, ce sont des propos qui ont du contenu. Donc, je bouge, donc je suis.
Il y aurait une autre lecture. Et cette lecture-là, c'est la lecture des vrais marrons qui ont existé à l'île Maurice et qui ont existé dans tous les pays où l'esclavage a sévi. Nous parlons de l'esclavage, bien entendu, des Africains, des Malgaches, et pendant la colonisation. Et donc, pour pouvoir s'échapper de la plantation, qui était une petite prison à vie, les marrons, c'est-à-dire les esclaves, trouvaient le moyen de s'échapper, de partir. Et généralement, ils allaient dans les bois ou dans les montagnes et ils créaient là une espèce de petite communauté, une communauté un peu utopique. Ce n'était pas l'Afrique qu'ils essayaient de recréer, mais c'était quelque chose d'autre. Mais surtout, qui donnait un air de liberté, de pouvoir respirer et de se débarrasser de toute contrainte, notamment qu'il n'y ait pas de chef. C'est que tout le monde puisse être en charge de sa propre vie.
Libéré. Wow.
Donc comme quoi, le marronnage est une philosophie et qui est pérenne, c'est-à-dire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à un certain point, quand on parle de liberté, même ici, quand je suis en France et j'entends parler de liberté, et je sens quelque chose d'assez sain et d'assez serein, c'est qu'on n'en a jamais assez. Il en faut de plus en plus, il faut tous les jours une bouffée d'air de liberté, il faut réviser les notes, et il faut que dans son cœur, dans sa tête, dans les mots et dans ce qu'on fait, que la liberté soit une réalité. Dans ce sens-là, le marron, c'est celui qui aspire à une liberté, et c'est celui qui, sans liberté, redevient esclave.
philosophie, géographie, bien sûr, parce que c'est quand même situé, on l'a dit, île Maurice. Et sans aucun doute, des marrons viennent d'ailleurs, d'autres pays, vu que là, on ressent quelque chose d'une drôle d'époque, on pourrait dire sale époque, horrible époque, où même nous avons été cocorico porteurs de cette horrible chose. Il y a des villes comme Nantes, d'ailleurs. Restons pas sur ce sujet, car il y a beaucoup, beaucoup à dire, et je pense qu'on a beaucoup de choses à se reprocher, on a beaucoup de choses à revoir, revoir son histoire, revoir sa géographie, revoir d'où l'on vient, qui l'on est, car à ce qu'il paraît, le premier homme était marron, d'après les documents, et je m'intéresse beaucoup à ce monde, et de marron, on est tombé dans la loi de Javel, on est devenu blanc. Pour d'autres, sont tombés dans un bac de couleur jaune. D'autres sont devenus mauves, et j'en passe, et j'en passe. Et puis, c'est pour cela que je vais revenir un peu à votre enfance.
Oui.
Daniel, île Maurice, on est né là-bas. C'est quoi une enfance sur cette île? C'est quoi enfant des îles? Car vous êtes un enfant d'une île, d'un territoire autour de la mer, petit, où il y a... un caractère, je l'entends par le bon sens des choses, tribal de la vie, c'est quoi être un enfant de là-bas?
Être insulaire, c'est un état assez particulier. Et on le réalise graduellement que d'abord, on parlait de plantation, on parlait de limitation, mais en réalité, un rocher au milieu de l'océan, c'est ça l'île Maurice. Et donc, rapidement, on réalise qu'on ne peut pas aller très loin parce que la mer nous attend. La mer peut être, comment je veux dire, exotique, intéressante, ceux qui vont visiter le pays, mais pour celui qui est né sur une île, il y a deux sentiments. D'une part, c'est qu'on est limité, que la mer nous emprisonne. Et deuxièmement, on recherche automatiquement l'envie de s'envoler et de trouver d'autres terres. Et puis, bien entendu, puisque tout le monde à Maurice est arrivé à un certain moment de l'histoire, et généralement, tout le monde n'est pas arrivé enchaîné, mais tout le monde est parti parce que là-bas, ça n'allait pas. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit les Chinois, par exemple. Donc, ils cherchaient autre chose. Et à un certain moment, à partir de la mer, à bord des bateaux, soit des commerçants, soit des bateaux de la traite de l'esclavage, soit pendant le commerce, ils découvraient Maurice, parce que Maurice a été découverte. Ce qu'il faut dire, c'est que le pays est un pays qui n'a jamais eu d'habitants. Il y avait le dodo, le fameux oiseau dodo.
Dodo.
Et donc... D'ailleurs, rapidement, les...
Le dodo, c'est le cerf de perroquet, c'est ça? Non?
Non, pas du
pas
tout.
Du tout.
Pas
ah
du
bon,
tout.
C'est erreur de ma part.
C'est une espèce de grosse dinde.
Ah, vu, d'accord.
Voilà, c'est une grosse dinde, mais lourd. Un oiseau assez lourd et très maladroit. C'est-à-dire, c'était un oiseau estropié, avec de petites ailes qui ne permettaient pas de courir. Et elle n'avait pas, l'oiseau n'avait pas de défense. Et donc, ce qui fait que les prédateurs, dès que ces prédateurs ont été emmenés à Maurice, donc les rats, les lapins, les animaux, mais le pire des prédateurs, c'est l'homme. Donc, l'oiseau a vite disparu. Et donc, au fur et à mesure que l'oiseau disparut, l'île attirait une certaine population. Donc, moi, personnellement, je suis né dans la capitale de l'île Maurice, qui est Port-Louis. Et je suis né dans une famille modeste. Mon père était artisan, ma mère était couturière. Et donc, mais ils avaient une certaine rage dans leur couple et qu'ils projetaient un peu sur leurs quatre enfants. Et donc, ils voulaient surtout transformer leur existence un peu classique par l'éducation. Ce qui fait que...
Le savoir.
J'ai eu la chance d'aller dans une école privée, par exemple, pour le cycle primaire. Et dans un pays comme Maurice, ça fait une différence. C'est-à-dire, soit vous avez ce qu'il faut dire, c'est que Maurice est un pays où le comment je veux dire, le niveau de gens qui lisent et qui écrivent est très haut. C'est que l'école s'est développée assez tôt. Donc moi, j'ai été dans une école privée par rapport à une école du gouvernement, comme on dit là-bas. Et donc, ce qui fait que c'était déjà un petit peu spécial. Mais non pas parce qu'ils avaient de gros moyens, mais parce qu'ils avaient de grandes ambitions. Alors, dans un premier temps, j'ai fait mes études dans une école privée. Et là, à partir de là, déjà, je commence à être conscient d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire le théâtre, la lecture, les activités culturelles.
Daniel, on va un peu trop vite. Ah, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est petit et qu'on est sur une île, est-ce qu'on joue aux billes? Est-ce qu'on joue à la marelle? Est-ce qu'on est dans un autre monde, autre climat, autre culture? Des gens qui viennent, comme on vient de l'entendre, d'un peu partout, des quatre coins du monde, qui se retrouvent là. Est-ce qu'on a un enfant, et puis on a envie de penser que il n'y a pas beaucoup d'espace, mais est-ce que c'est un lieu, par le fait peut-être justement d'être, le mot va être fort, confiné, on a plus de liberté, c'est quoi exactement un enfant de 4 ans, 5 ans qu'on a été là-bas?
Ben d'abord, on regarde son environnement immédiat, et on a tendance également de se renfermer de plus en plus, c'est-à-dire de la famille, le petit village, et puis, comment je veux dire, dès qu'on fait 10 kilomètres, on est sur un autre territoire. Et donc, les notions de distance sont encore réduites. Et bien entendu, la mentalité également est réduite. Et donc, ce qui fait qu'on dit à Maurice qu'il y a un grand poète qui s'appelle Malcolm de Chazal, qui dit qu'à l'île Maurice, on cultive la canne à sucre et les préjugés. Ce qui veut dire que très rapidement, jeunes, on réalise que dans ce pays, il y a les contraintes géographiques, territoriales, mais il y a également les contraintes sociales. On est libre dans sa tête, on est libre en jouant dans la cour. Et ce qu'il faut dire à Maurice, c'est très important de le signaler, c'est que toutes les grandes, les grandes cultures du monde, que ce soit les Chinois, les Européens, les Africains, les Malgaches ou même les Arabes, se retrouvent sur ce territoire. Mmh. Donc Maurice est une espèce d'expérimentation, c'est une plateforme où tous ces continents ont déversé une petite fraction de leur population, et l'expérience consiste à « allons voir ce que vous pouvez faire ensemble ». Alors ce qui se passe au niveau d'un pays qui se cherche et qui se crée, parce que ça s'est créé un peu pendant ma vie d'adulte, ça se retrouve également dans la cour d'école. Donc ce qui fait que dans la cour d'école, on découvre que son ami est bien différent de soi. Par exemple, moi, je suis un marron, donc je suis de type plutôt africain malgache. Et puis, je découvre que j'ai des affinités avec mon ami qui est totalement chinois. Et puis, ma voisine est particulièrement jolie. Je suis un homme, je vois une jeune fille. Et puis, je réalise qu'elle est, elle, d'origine pakistanaise. Donc c'est une qualité de peau, une qualité de parler. Ce qui est bien, ce qu'il faut dire, j'ai eu une enfance heureuse dans le sens que, à part lui, l'expérimentation de la cohabitation était poussée avec un grand bonheur. C'est-à-dire le partage était complet. Wow. À savoir que les voisines, surtout, ça se faisait au niveau des femmes et des mères. Quand il y avait une fête, allons dire chrétienne, on invitait la voisine hindoue, on invitait la voisine musulmane, on invitait la voisine chinoise, et on partageait le gâteau, on partageait ce qu'il y avait à partager. Et inversement, lorsqu'il y avait une fête chinoise, une fête indienne, etc., donc le partage était le mode de vie. Ce qui fait qu'il y avait une harmonisation. Et moi, j'ai été fortement imprégné de ces valeurs de partage, ces valeurs de découvrir et d'aimer sans totalement comprendre. Et donc, c'est ça un petit peu le miracle de la cohabitation de Maurice, c'est qu'au niveau des familles, au niveau des individus, au niveau de la cour d'école, il y a un véritable partage et il y a une grande tolérance, mais qui va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la découverte, on s'arrête à l'exploration et on avance, je veux dire, on explore, on vit, on explore quotidiennement. Et donc, ce qui fait qu'une fois qu'on est imprégné de ça, à l'âge de 4 ans, moi j'ai fait jusqu'à l'âge de 10 ans mon cycle primaire, justement dans ce milieu-là, et avec un apport d'éducation. Et là, ce qu'il faut dire au niveau de l'éducation également à l'île Maurice, c'est que nous sommes bilingues. Donc à l'école, dès le plus bas âge, nous apprenons à parler anglais et on parle également français. Donc si je parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que très jeune, c'est grâce au système d'éducation à Maurice. D'une part, il y a des raisons à ça, mais très tôt, on vous inculque cette double approche à la vie. Donc, pour information, à l'île Maurice, le système d'éducation vous enseigne les sujets techniques, c'est-à-dire la chimie, la biologie ou les mathématiques, par le biais de l'anglais. Mais vous étudiez le français et vous étudiez la littérature française. Au moment où moi j'étais à l'école, c'était la fin de l'histoire de France qui était encore enseignée. Et puis ça s'est on a mis une fin à ça à un certain moment. Mais je me souviens de certains livres qui sont arrivés sur mon petit pupitre en tant qu'élève, où j'ai vu par exemple ces avenues, lorsque je roule sur les rues ici entre le Mans et Ciel-Guillaume,
oui.
Et il y a des avenues interminables qui débouchent sur un clocher.
Les voies romaines.
Voilà. Et donc pour moi, ça me rappelle des livres que j'avais, très jeune écolier. Et puis, bien sûr, ça a disparu. Ce qui n'a pas disparu, c'est le bilinguisme de Maurice, ce qui fait que nous arrivons à l'âge adulte avec un avantage, que de maîtriser la langue française. Et si nous voulons vraiment la cultiver, moi j'ai réussi à le faire malgré 35 ans d'Angleterre, mais en même temps on apprend l'anglais, parce que si on ne passe pas en anglais, on ne passe aucun examen.
Autrement, quel récit, quelle richesse, quelle, pour vous auditrices et auditeurs, autour de notre invité Daniel Labonne. On est déjà avec lui depuis, je crois, son troisième feuilleton, donc soit le quatrième, si je ne me trompe. Mais, Daniel, est-ce qu'avec toutes ces cultures, tous ces gens, est-ce qu'on a joué aux billes, est-ce qu'on a joué à la marelle, on jouait à quoi? Ou est-ce qu'il y avait d'autres jeux beaucoup plus fantastiques? Peut-être la marelle pour aller dans tous les pays du monde, je ne sais pas, c'est quoi?
Lorsqu'on est insulaire, on n'a pas beaucoup de traditions. On a tendance à créer des jeux.
Wow.
Ce qui fait que très souvent, les jeux étaient créatifs. Les groupes inventaient le petit jeu. Mais le jeu, bien entendu, auquel moi j'ai beaucoup participé, c'était souvent des jeux de course. Et des jeux de comment je vais dire, en créole, on appelait ça des garde-volaire. Garde-voleur veut dire quoi? D'un côté, il y a les gardes, d'un autre côté, il y a les voleurs. Et c'est très curieux. C'est après que j'ai réalisé que... Mais bien, il m'est arrivé, par exemple, de passer toute ma récréation en oubliant de manger parce qu'il y avait une partie de garde-voleur. Et c'est très curieux. Et c'est bien après que j'ai compris que c'était possiblement, c'était une des séquelles de l'esclavage. C'est-à-dire, les jeux, instinctivement, intuitivement, recréaient la poursuite.
D'accord.
Et nous revenons encore dans le camp de l'esclavage.
Okay,
c'est-à-dire, celui qui s'échappait et qui partait était poursuivi à mort. pour être retrouvé et être ramené parce qu'il était une valeur économique. Il était un bien.
Un travailleur.
Mieux qu'un travailleur.
Oui, plus mieux qu'un travailleur.
Voilà, il était une propriété.
Oui,
il était une propriété et quelqu'un avait investi sur sa tête. Et le fait qu'il s'en aille, il se donne des airs d'homme libre. Mais il y avait des intérêts particuliers, il y avait des intérêts de groupes de colons, et puis il y avait des intérêts gouvernementaux parce que le colonisateur chapeautait tout ce système-là. Alors, donc finalement, dans nos petits jeux d'enfants, il y avait ceux qui aujourd'hui seraient les poursuivants, ceux qui vont donner donner la chasse à ceux qui partent, et puis il y a ceux qui partent. Donc comme quoi, instinctivement, God Voler n'était pas, une lecture à l'américaine de la poursuite du méchant et du bon, c'était plutôt une recréation de ceux qui aimaient la liberté et qui s'envolaient même de la salle de classe, et puis ceux qui poursuivaient pour les ramener là où ils doivent être. Voilà un petit jeu qui était amusant et un peu épuisant parce qu'il fallait vraiment courir et poursuivre. Mais disons que ça donne la forme.
Que de choses autour de cette grandeur, cette beauté, retrouver son histoire, car il est vrai pour vous, les Sartois, gendarmes et aux voleurs, tenez donc. Mais oui, pourquoi pas. Toutes ces choses qui existent et qui sont toujours là. On a l'impression que c'est vieux comme Hérode, comme dirait l'autre, peut-être que les Romains, même peut-être qu'avant les Romains, on était aussi dans ce monde des jeux où l'enfant, bien sûr, recréait des mondes, mais il avait reçu quelque part des petits messages qui lui restaient dans le fond de sa mémoire, où, sans le faire exprès, on cultivait le fait d'eux. Ça peut aussi permettre, mais que de choses on pourrait dire autour de ça, mais nous n'irons pas aussi loin. L'autre côté, là-bas, lorsqu'on est enfant, c'est que du soleil, que de la joie. Moi, dès qu'on parle l'île Maurice, pour moi, c'est du soleil, que du soleil, rien que du soleil. On connaît l'eau, peut-être des grosses averses, et après, paf, tout le ciel est tout bleu, et les oiseaux sont toutes les couleurs, et les fleurs aussi, l'île Maurice, les fleurs.
C'est joli, Maurice. C'est joli, et ça, c'est poétique. Ce qu'il faut dire, c'est que la nature, vraiment,
généreuse.
Elle est généreuse, elle est foisonnante, elle est colorée. Et un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de bêtes sauvages. Il n'y en a jamais eu. Donc ça, c'est déjà bien. Et deuxièmement, le climat est plutôt agréable toute l'année. Et parce que nous avons, grosso modo, Deux saisons, une saison froide, plutôt fraîche. Ça ressemble un peu au printemps d'ici.
D'accord.
Et donc, qui dure pas très longtemps, 4-5 mois. Et le reste du temps, il fait très chaud. Et c'est un beau soleil. Et donc, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi qui bouge beaucoup, j'ai tendance à dire que la beauté peut être ennuyeuse. C'est-à-dire, il n'est pas mal d'être dans un paradis, mais celui qui est au paradis découvre des choses qui ne sont pas nécessairement agréables. Je peux vous dire, vous parlez de mon enfance, mais lorsque j'avais l'âge de 12 ans, j'ai eu le malheur de connaître quelle était la férocité d'un cyclone. Donc, nous sommes régulièrement visités par des cyclones. Et donc, à cette époque-là, les maisons n'étaient pas très bien construites. C'était des maisons relativement bien, dans le sens que c'était très souvent des structures en bois avec de la tôle. C'était des maisons, on appelait ça des maisons coloniales, parce que j'habitais Port-Louis. Et à la campagne, c'était des maisons couvertes de chaume. Mais ce n'était pas très résistant au vent. Donc, on a eu... dans les années 60, quand moi j'avais 10-12 ans, on a eu la visite de cyclones assez féroces. Et donc ma maison, par exemple, a été complètement détruite.
Ouaf, balayée.
Balayée. Et donc, bien entendu, on peut en rire, mais je crois que quelque part, j'ai été traumatisé. Et donc, quand je dis traumatisé, ce n'est pas un terme exagéré, mais j'ai remarqué que de manière générale, et ça peut expliquer un petit peu le sens de marronnage, c'est-à-dire en quelque sorte, j'ai tendance à ne pas avoir confiance dans la maison qui m'abrite aujourd'hui. J'ai toujours l'impression qu'il y a méchante dame nature, demain matin viendra enlever le toit, abattre les murs, me voler ma maison. Et je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai toujours eu tendance à acheter la deuxième maison au cas où la première partirait. Ça paraît absolument fou, absolument fou pour celui qui n'est pas passé par là. Mais lorsqu'on est enfant et qu'on s'en va, par exemple, mon père me dit, à partir de l'abri où tout le monde était parti se réfugier pendant que les vents de 150, 180 kilomètres soufflaient. Donc il y a une accalmie et mon père me dit, va voir comment ça va. Et je m'en vais, la maison avait disparu.
C'est vrai que ça doit faire drôle.
Non, c'est pas amusant du tout.
Ouais.
Mais le problème, c'est que lorsqu'on est jeune et qu'on est enfant, il y a deux autres sentiments. D'une part, on se sent coupable. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi? Deuxièmement, il y avait un autre petit problème, c'est qu'est-ce que je réponds à papa? Donc...
Papa, il n'y a plus de maison. Ah voilà. Bon, mais tu dis des bêtises, tu t'arrêtes.
Mais voilà.
T'as déjà lu.
Voilà, c'est exactement ça. Donc comme quoi, oui, c'est le soleil. Oui, c'est joli. Oui, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que la vie est monotone, permanente et sans remous. Ça peut être tragique, ça peut être difficile. Et même la cohabitation, je peux vous dire, il n'y a pas que la nature qui est méchante, mais la nature humaine également peut surprendre. Et donc, il y a des crises à Maurice, il y a des remous, il y a des troubles, il y a des menaces, il y a toutes sortes de... Donc, ça s'agite pas mal, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un petit espace, on est un peu comme des fourmis, parce que un autre aspect important de la vie à l'île Maurice, c'est que le pays est surpeuplé, c'est-à-dire ils ont leur propre manière de mesurer l'espace par rapport à au nombre de gens qui habitent cet espace. Et donc, dans ce sens-là, le pays est surpeuplé. Et donc, lorsqu'on est très différent et provenant de diverses cultures et que tout cela est manipulé par des politiques, et donc il arrive très souvent que ça sent la fumée.
Daniel, le temps passe très vite, on ne voit pas le temps passer. Les auditeurs et auditrices, tout ouïe, tout oreille, je rappelle, fréquencier 97.9, on y reviendra sur tout cela, mais je voulais un petit peu ouvrir quelques fenêtres autour de votre enfance pour que les auditeurs arrivent à mieux comprendre, parce que nous irons nous promener dans d'autres endroits avec vous, puisque vous l'avez dit, vous avez voyagé sur la planète, et c'est bien intéressant, et je suis persuadé que autrement, là, et dans sa réalité, dans sa pâte, dans son jus, dans sa texture, dans ce qu'écoutent et ce qu'entendent les auditeurs, très différents, bien sûr, d'inviter à l'autre, mais c'est ce qu'il faut, je crois, c'est le but de nos radios, soyons mosaïques culturelles, offrons à tout le monde un maximum d'informations. Daniel, on se dit à bientôt et merci pour ce petit regard. On aurait pu encore aller plus loin, on ira plus loin une prochaine fois autour de votre enfance. À bientôt.